Les narines obstruées par du tissu, Ourine luttait sur le plateau de Polov avec les autres frontaliers. Même à travers la protection, il sentait la puanteur de la guerre. Celle d'une trop grande violence, celle du sang, celle de la chair en décomposition. Ses remugles s'accrochaient au sol, à son arme et à ses vêtements. Pendant cette bataille, il avait déjà vomi à plusieurs reprises. Pourtant, il continuait à se battre. Voyant un trolloc à gueule d'ours jeté sur lui, il s'écarta juste à temps. L'épée du monstre se planta dans la terre, la faisant trembler. Ourine cria sans casser les cordes vocales. Croyant qu'il crevait de peur, le monstre éclata d'un rire inhumain, puis il chargea tête baissée. Avançant et se penchant, Ourine passa sous sa garde et lui ouvrit le ventre. Emporté par son élan, le trolloc fit encore quelques pas, s'arrêta et baissa un regard incrédule sur ses entrailles sanglantes.
« Je dois gagner du temps pour le seigneur Rand, » pensa Ourine.
Il recula, puis attendit le prochain trolloc. Les créatures déboulaient du versant du plateau, côté rivière. Très abruptes, cette pente leur posait des problèmes, mais ils étaient si nombreux.
« Bats-toi ! Ne cesse pas de te battre !»
En personne, le seigneur Rand était venu lui présenter ses excuses. À lui. Eh bien, il allait se montrer à la hauteur et l'emplir de fierté. Le dragon réincarné n'avait pas besoin du pardon d'un petit attrapeur de voleurs, mais Ourine avait le sentiment que le monde était de nouveau dans le bon sens. Redevenu lui-même, le seigneur Rand les protégerait tous, si on lui donnait assez de temps. Il y avait comme une pause dans l'action. Ourine plissa le front. La horde adverse avait paru inépuisable. Il ne pouvait pas avoir tué tant de monstres. Ourine avança, regardant au-delà des monceaux de cadavres. Non. Il ne fallait pas crier victoire. Le raz-de-marée de Trolloc restait infini. À la lueur des feux, Ourine le voyait très bien. Mais les monstres marquaient un temps d'arrêt, parce qu'ils devaient déblayer les cadavres de leurs congénères avant de reprendre leur ascension. Sur ce versant, les archers de Tam avaient fait un massacre. Au pied du plateau, près de la rivière, le gros des Trolloc affrontait l'armée d'Elaine.
« On devrait avoir quelques minutes de répit, »
dit Lan Mandragoran, perché sur son superbe destrier. La reine Aliandre était là aussi. Très calme, elle conversait avec ses hommes. Deux monarques en pleine vue. Pour sûr qu'ils savaient exercer le pouvoir. De quoi remonter le moral à Ourine.
« Ils se préparent pour l'assaut final, » dit Lan. « Une formidable poussée pour nous chasser du bord de la pente et nous affronter sur un terrain plat. Pendant qu'ils enlèvent leur mort, reposez-vous un peu. L'attaque à venir sera la pire. »
Parce qu'il pouvait y avoir pire que les précédentes. Derrière les frontaliers, au milieu du plateau, le reste de l'armée de Maat continuait à tenter de repousser les Chariens vers le sud-ouest. Si la manœuvre réussissait, précipitant ses troupes ennemies au pied du plateau, puis au milieu des monstres qui ferraillaient contre Elaine, il en résulterait un chaos dont Maat pourrait tirer parti. Mais pour l'instant, les Chariens ne cédaient pas un pouce de terrain. En fait, ils repoussaient les forces de Maat, dont les rangs commençaient à s'éclaircir. Ourine tendit l'oreille et capta des gémissements, des cris lointains et, en bruit de fond, le vacarme habituel des armes. La puanteur qui le révulsait ici était partout présente, comprit-il. Et le pire restait à venir. Que la lumière les aide. Avec un chiffon, Berlaine essuya le sang qui maculait ses mains. Puis elle entra dans la salle des fêtes de son palais. Ici, les magnifiques tables avaient été débitées pour alimenter les deux grandes cheminées, à chaque extrémité de la pièce géante. En guise de meubles, on ne trouvait plus que des rangées de blessés. Les portes des cuisines s'ouvrirent, laissant passer un groupe de Zingari, certains portant une litière et d'autres aidant un blessé à clopiner.
« Encore des malheureux ?»
pensa Berlaine. Le palais entier en était plein.
« Non, non !»
cria Berlaine en avançant.
« Pas ici ! Le couloir de derrière ! On va devoir commencer à le remplir. Rosil, nous avons de nouveaux blessés. »
Tout en rassurant leurs protégés de la voie, les Zingari se dirigèrent vers le couloir. Ici, on amenait seulement les blessés qui avaient une chance de s'en tirer. À contre-cœur, Berlaine avait dû apprendre aux Zingara l'art désespérant de trier les blessés. Par exemple, en fonction des efforts que demanderait la guérison de leurs plaies. Mieux valait sauver 10 gars salement blessés que dépenser autant d'énergie, au minimum, sur un seul malheureux dont la vie ne tenait plus qu'à un fil. Ce cours était un des pires moments de sa vie, et il le resterait. Observant la colonne de Zingari, Berelein se mit en quête de tous les blessés qui portaient du blanc. Elle repéra plusieurs fils de la lumière, mais pas celui qu'elle cherchait.
Tant de souffrances.
Pour déplacer les éclopés, les Zingari ne pouvaient compter sur aucune aide. Au palais, tous les hommes valides, et presque toutes les femmes, étaient partis pour le champ de bataille, avec le désir de se battre ou aider les réfugiés de Kaemlyn à collecter des flèches. Rosil déboula, ses vêtements constellés de taches de sang qu'elle semblait ne pas remarquer. Aussitôt, elle prit les nouveaux blessés en charge, sélectionnant ceux qui avaient besoin de soins plus qu'urgents. Manque de chance, les portes de la cuisine s'ouvrirent de nouveau, laissant passer un groupe d'Andoriens et d'Aiel en piteux état. Des pauvres types envoyés par les femmes de la famille depuis un autre secteur du champ de bataille. La suite tourna à la folie furieuse. Pour aider à installer les nouveaux pensionnaires, Berelein mobilisa tout son monde. Les garçons d'écurie, les vieillards, et même les enfants à partir de 5 ans. Parmi les Aiel, seuls les plus gravement touchés venaient à Mayenne. Les autres manifestaient une fâcheuse tendance à rester sur le front tant qu'ils pouvaient encore tenir une arme. En conséquence, parmi ces blessés-là, beaucoup étaient au-delà de toute assistance. Les accueillant dans un espace qu'elle n'avait pas, Berelein devait les regarder mourir dans d'atroces souffrances.
« C'est de la folie !»
s'écria-t-elle soudain. Ses mains étaient de nouveau rouges de sang, et il ne lui restait même pas un chiffon propre.
« Nous devons envoyer plus d'aide. Toi !»
Berelein désigna un Aiel devenu aveugle. Un pansement sur les yeux, il était assis contre un mur.
« Toi, l'Aiel aveugle !»«
Je me nomme Ronja. »«
Ronja, oui. » « Ici, j'ai quelques Gaïshain pour m'aider. Mais selon mon compte, il devrait y en avoir beaucoup plus. Sais-tu où ils sont ?»«
Ils attendent l'issue de la bataille, afin de pouvoir servir les vainqueurs. »«
Il faut aller les chercher. Nous avons besoin de tous les gens en état de se battre. »«
Ils viendront peut-être ici pour t'aider avec les blessés, Berelein Pindrag. Mais ils ne se battront pas. Ce n'est pas dans leurs attributions. »«
Je leur ferai entendre raison !»
affirma la première dame.
« C'est l'ultime bataille !»
« Ici, tu es une sorte de chef de tribu, » dit Aiel avec un sourire. « Mais pas le Karakarn. Et même lui, il ne pourrait pas ordonner à ces gens de désobéir au Jieto. »
« Alors qui le pourrait ?»
La question surprit le guerrier.
« Personne. C'est impossible. »«
Et les matriarches ?»«
Elles ne le feront pas. Jamais. »«
Nous verrons bien. »
Le sourire de Ronja s'élargit.
« Je crois qu'aucune femme et aucun homme non plus ne voudrait être l'objet de ton courroux, Berelein Pindrag. Mais si on me rendait mes yeux, je préférerais les perdre de nouveau, plutôt que de voir des Gaïshain se battre. »«
Ils n'auront pas besoin de se battre dans ce cas. Mais transporter les blessés, par exemple. Rosil, tu as vu ce nouveau groupe ?»
La sœur épuisée hocha la tête. Au palais, on ne trouvait pas une seule Aes Sedai qui ne donnait pas le sentiment de devoir s'écrouler au prochain pas. Pour rester alerte, Berelein recourait à des herbes que Rosil, selon elle, n'approuverait pas. Bien, elles ne serviraient plus à rien ici. Autant aller voir les blessés rassemblés dans les diverses remises et les gardes manger. Ils avaient...
« Dame Berelein ?»
demanda une voix familière. C'était celle de Kitan, une des servantes restées au palais pour contribuer aux soins.
« Tu dois venir voir quelque chose. »
La frêle jeune femme prit sa reine par le bras. Berelein soupira, mais elle se laissa entraîner. Quel désastre l'attendait encore? Une autre bulle maléfique qui emprisonnait des blessés au milieu des murs qui n'existaient pas avant? Une nouvelle pénurie de bandages? Si c'était le cas, on pouvait douter qu'il y ait encore en ville un drap, une tapisserie ou une liquette qui n'ait pas déjà été transformée en pansement. Kitan guida Berelein vers ses appartements, où on avait aussi installé des blessés. Entrant dans une des pièces, la première dame fut surprise d'être accueillie par un visage familier. Assise au chevet d'un blessé, Anoura portait une robe rouge rayée de gris. Sa natte tressée à la hâte jetée derrière son épaule, le teint terne, elle était presque méconnaissable. Elle se leva en apercevant Berelein et s'inclina au risque de s'étaler, tant elle était à bout de force. Dans le lit, Galad d'Amodred reposait. Berelein courut et se pencha sur le blessé. C'était bien lui, malgré la plaie qui lui barrait le visage. Il respirait encore, mais n'était pas conscient. Berelein voulut prendre sa main entre les siennes, mais elle découvrit qu'il n'avait plus qu'un moignon en guise de bras. Un chirurgien avait déjà cautérisé la plaie pour empêcher qu'il se vide de son sang. Berelein prit l'autre main du jeune homme.
« Comment ?»
demanda-t-elle. La main de Galad était toujours chaude. Quand elle avait entendu dire que Démondred se vantait d'avoir vaincu l'homme en blanc,
Je te devais bien ça,
dit Anoura.
J'ai trouvé Galad sur le champ de bataille, après que Démondred se fut vanté de son exploit. Pendant que le rejeté affrontait un des hommes de la Tour Noire, j'ai exfiltré notre pauvre ami.
Anoura se rassit sur son tabouret et baissa la tête.
Père Elaine, je n'ai pas pu le guérir. Toute ma puissance, je l'ai épuisée pour ouvrir le portail et te l'amener. Désolé. Ne t'en fais pas, c'est très bien,
souffla la première dame.
Kitan, va chercher une autre sœur. Anoura, après un peu de repos, tu te sentiras bien mieux. Merci.
La Aes Sedai acquiesça. Quand elle ferma les yeux, Beryl Lane fut surprise d'y voir perler des larmes.
Anoura, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne devrais pas t'en faire pour ça, Beryl Lane,
répondit la Aes Sedai en se levant.
Nous l'apprenons toutes. Ne pas canaliser quand on est trop fatigué. Parce qu'il peut y avoir des complications. Mais je devais ouvrir un portail pour amener cet homme ici.
Anoura se laissa retomber sur son tabouret. En fait, elle s'y écroula, parce qu'elle venait de perdre connaissance. Beryl Lane bondit pour la soutenir et lui releva la tête. Alors, elle s'aperçut enfin que ce n'était pas la natte qui changeait l'apparence de la sœur. Le visage n'était plus le même. Semblant plus jeune, Anoura avait perdu l'intemporalité typique des Aes Sedai.
« Anoura,
souffla Beryl Lane,
tu t'es carbonisée, n'est-ce pas ?»
Inconsciente, l'Aes Sedai ne répondit pas. Beryl Lane en eut le cœur serré. Ces derniers temps, Anoura et elle avaient eu des différends, mais cette femme restait sa confidente et son amie. Après des années, les liens ne disparaissaient pas si facilement. Pauvre Anoura, si on en croyait les Aes Sedai, être carbonisé était un sort pire que la mort. Beryl Lane allongea la sœur sur un sofa non loin du lit, puis étendit une couverture sur elle.
Qui sait? Elle pourra peut-être bénéficier d'une guérison.
Retournant près du lit, Beryl Lane remit le tabouret sur ses pieds, s'assit et prit la main de Galad avec l'intention de la tenir un moment, une brève pause. La jeune femme ferma les yeux. Galad était vivant. Il avait dû payer un prix terrible, mais il ne mourrait pas. Elle sursauta quand il parla.
« Comment suis-je arrivé ici ?»
Beryl Lane ouvrit les yeux et vit qu'il la regardait.
« Anoura, elle t'a trouvé sur le champ de bataille. »
« Mes blessures. »
« Une sœur viendra dès que possible. Ton avant-bras est perdu, mais on pourra effacer cette plaie sur ton visage. »
« Non, ce n'est qu'une entaille. La guérison, il faut la réserver à ceux qui risquent de mourir. »
Galad semblait si fatigué, à peine conscient. Beryl Lane se mordit la lèvre, mais elle acquiesça.
« D'accord. Galad, la bataille se passe mal, je crois. »
« Oui.
Alors, il ne nous reste plus que l'espoir. »
Le jeune homme dégagea sa main et la glissa sous sa chemise. Quand une Aes Sedai s'occuperait de lui, il faudrait le déshabiller avant de le soigner. Pour le moment, on s'était simplement soucié de son moignon. Galad soupira, se mit à trembler, et sa main glissa loin de sa chemise. Avait-il voulu la retirer ?
« Espérez, »
répéta-t-il avant de perdre connaissance. Rand pleurait. Recroquevillé dans l'obscurité, il sanglotait, alors que la trame tissée avec des vies d'hommes et de femmes tourbillonnait devant lui. Tant de vies, tant de fils coupés, tant de morts. Il aurait dû pouvoir protéger les siens. Pourquoi en était-il incapable? Contre sa volonté, une liste de noms défila dans son esprit. Ceux des gens morts pour lui. Au début, il n'y avait que des femmes, mais à présent, on y trouvait tous les êtres qu'il aurait dû sauver et qu'il avait laissé mourir. Alors que l'humanité se battait au champ de Merilor et au mont Shagulgul, Rand était condamné à voir toutes les morts. Impossible de détourner le regard. Le ténébreux choisit cet instant pour lancer une attaque violente. La pression se fit de nouveau sentir, menaçant d'écrabouiller Rand. Incapable de bouger, il mobilisa toute sa détermination, sa force et son essence pour empêcher son adversaire de le déchiqueter. En même temps, il voyait mourir des héros. Davram Bachéré, tué en menant une charge, et vite suivi dans la mort par sa femme. En le voyant tomber, Rand cria de terreur. Un autre ami a pleuré. Ce cher Ourin, si loyal, venait d'atteindre le sommet du plateau où Matt se battait quand un trolloc lui transperça le torse. Rand pleura pour lui. Fidèle parmi les fidèles, cet homme l'aurait suivi n'importe où. Jory Kongar gisait sous le corps d'un Trolloc. Saignant à mort, il appela au secours, jusqu'à ce que le fil de son existence se coupe net. Après avoir quitté les promises, Enaïla avait déposé une couronne de mariage au pied du guerrier Leiran. Et là, quatre Trollocs venaient de l'éventrer avec leurs lances. Rand pleura aussi pour elle. Un autre fidèle, Carldin Manfort, déjà avec Rand au puits de Doumaï, expira à l'exact moment où ses forces l'abandonnèrent, lui interdisant de canaliser le pouvoir. Alors qu'il gisait sur le sol, épuisé, des chariens fondirent sur lui et le lardèrent de coups de poignard. Son Aes Sedai, Beldane, succomba quelques minutes plus tard. Rand pleura pour les deux, puis pour Gareth Bryn, Siouan et Gawain. Tant de morts.
Tu es en train de perdre.
Rand se rencogna un peu plus dans l'obscurité. Que pouvait-il faire d'autre? Son rêve, un monde sans le ténébreux, aurait été en réalité un cauchemar. Ses bonnes intentions avaient fini par le trahir.
Abandonne, adversaire! Pourquoi continuer à te battre? Rends-toi et prends un peu de repos.
La tentation fut très forte, presque trop forte. Mais qu'en penserait Ninevée? Du coin de l'œil, Rand la voyait lutter pour sauver Alanna. Quelle honte éprouverait-elle, tout comme Moiraine, si elle découvrait que le dragon réincarné désirait baisser les bras? La douleur arracha un cri à Rand.
« Par pitié, que ça s'arrête !»«
C'est possible !»
Rand se ramassa encore plus sur lui-même, tremblant de la tête aux pieds. Mais les cris retentissaient toujours à ses oreilles. « des morts sans arrêt !»«
Non »
parvint-il à murmurer. « Résistez toujours, résistez pour rester digne. »
« Très bien, j'ai encore une chose à te montrer. » Un autre aperçu de ce qui pourrait être.
Une dernière fois, le ténébreux tissa une virtualité. Et absolument tout devint noir. Taïm fouetta Mishraïl avec des flux d'air.
Revenez, bande de crétins! Il ne faut pas perdre cette position!
La chamane, devenue un seigneur de la terreur, obéit à son maître. Avec ses deux compagnons, il avança pour recommencer à combattre. Fou de rage, Taïm fit exploser une grosse pierre avec un petit flux de pouvoir. Cette maudite Aes Sedai, minable chatte de gouttière s'il en était, comment avait-elle osé le dominer?
Emmael, dit une voix très calme.
Taïm? Non, il devait penser à lui comme à Emmael. En attendant, il avança pour rejoindre la personne qui venait de l'appeler. Paniqué par ce qui lui arrivait, il avait voyagé d'un bout à l'autre du plateau, se trouvant à présent au bord du versant sud-est. De là, Démandred dirigeait la bataille en cours sur la pente et semait la mort dans les rangs d'Andoriens, de Kyrieniens et d'Aiel qui résistaient encore au bord de la rivière. Les Trollocs de Démandred contrôlaient désormais le corridor qui séparait le plateau et le marécage. Sans trêve, ils harcelaient les défenseurs campés près de la rivière asséchée. La victoire n'était plus qu'une question de temps. L'armée de Shara, elle, se battait sur la partie nord-est du plateau. Au début, Taïm s'était inquiété que Coton ait si vite réussi à bloquer l'avance de ses forces. Mais au fond, ça n'avait aucune importance. Un baroud d'honneur de ce fichu flambeur. Contre les chariens, il ne tiendrait pas indéfiniment. La priorité, pour l'instant, était de détruire les Aes Sedai qui continuaient à se battre sur ce versant du plateau. La clé de la bataille était là. Emmael passa entre des chariens bizarrement vêtus et tatoués qui lui jetèrent des regards soupçonneux. Au centre de ce groupe, Démandred était assis en tailleur. Respirant lentement, il avait les yeux fermés. Son Saangreal, à l'évidence, exigeait davantage de lui que la force dont on avait normalement besoin pour canaliser. Emael pouvait-il tirer profit de ce phénomène? Rester sous les ordres de quelqu'un le mettait hors de lui. Certes, il avait beaucoup appris de cet homme, mais Démandred, désormais, n'était plus apte au commandement. Non content de surprotéger les chariens, il gaspillait son énergie à vouloir se venger d'Altor. Et la grande force de Emael, depuis toujours, était d'exploiter les faiblesses des autres.
« On m'a dit que tu as échoué, Emael, »
lâcha Démandred. Au pied du plateau, sous leurs yeux, les Andoriens commençaient enfin à céder. Les Trollocs continuaient à chercher des points faibles dans leurs rangs, perçant les formations de piquets un peu partout le long de la rivière. Animée par l'énergie du désespoir, la cavalerie lourde de la Légion et les cavaliers légers du Kairien étaient sans cesse en mouvement, tentant en vain de repousser les Trollocs après qu'ils eurent débordé les piquiers. Près du marécage, les Aïels tenaient toujours, et les arbalétriers de la Légion, soutenant les piquiers, interdisaient encore aux assaillants de déborder les défenseurs par leur flanc droit. Mais la pression des Trollocs augmentait sans cesse, et les lignes d'Elaine reculaient régulièrement sur le sol du Chiennard.
« Emmael ?» fit Demandred en ouvrant les yeux. Un antique regard.
Refusant de se laisser intimider, Emmael le soutint.
« Dis-moi comment tu as échoué ?»«
La maudite Aes Sedai, cette chienne détient un sang Gréal très puissant. J'ai failli la vaincre, mais le vrai pouvoir m'a abandonné. »
« Si tu as le droit d'en canaliser si peu, » fit Demandred en refermant les yeux.
« C'est pour une très bonne raison. Quand on le maîtrise mal, le vrai pouvoir est hautement imprévisible. »
Emmael ne fit aucun commentaire. Il s'entraînerait à manier le pouvoir et découvrirait tous ses secrets. Vieux et lent, les autres rejetés ne feraient pas le poids. Bientôt, la jeune garde prendrait la relève. Lentement, Demandred se leva. En le voyant, on eût dit qu'un énorme rocher venait de changer de position.
« Tu vas y retourner et la tuer, Emmael. Son champion, je l'ai déjà abattu. Elle devrait être sans défense. »«
Le sang Gréal !»
Demandred brandit son étrange sceptre. Était-ce une sorte d'épreuve? Un tel pouvoir. Quand il l'utilisait, une incroyable puissance émanait de Demandred.
« Elle a un sang Gréal, selon toi. » « Eh bien, tu en auras un aussi.
Si je te prête sa carnène, c'est pour que tu n'aies plus d'excuses en cas de fiasco. Réussis ou meurs, Emmael. Prouve que tu mérites ta place parmi les élus. »
Emmael s'humecta les lèvres.
« Et si le dragon réincarné vient enfin à toi ?»
Demandred éclata de rire.
« Tu crois que j'utiliserai cet artefact pour le combattre? Qu'est-ce que ça prouverait ?» « Si je veux démontrer ma supériorité, le duel devra se dérouler à armes égales. Selon toute probabilité, il ne pourra pas utiliser Kalandor en sécurité, et tel un crétin, il a détruit les Choedankal. Cela dit, il viendra, et je l'affronterai sans aide, afin d'attester que je suis le vrai maître de ce monde. »«
Nous voilà mal partis, » pensa Taïm. « Il est fou allié, c'est ça ?»
Comme il était étrange de sonder le regard de cet homme qui semblait tellement lucide, et d'entendre de telles inepties sortir de ses lèvres. Quand Demandred avait contacté Emmael, lui offrant une chance de servir le grand seigneur, il n'était pas dans cet état pitoyable. Arrogant, certes, mais tous les élus avaient ce défaut. Cela dit, l'obsession de tuer Altor de sa main brûlait déjà en lui tel un incendie qui dévaste tout. Là, c'était différent. Vivre à Shara avait transformé cet homme, pas en bien, à l'évidence. Puis était arrivée l'apothéose. Quel individu sensé aurait remis à un rival un saint Gréal si redoutable?
Pas un seul, songea Emmael en s'emparant de l'artefact. Demandred, te tuer reviendrait à achever un cheval qui a trois jambes cassées. Quel dommage. En toi, je voyais un rival que j'espérais vaincre.
Demandred se détourna. Puisant du pouvoir par l'intermédiaire de sa carnène, Emmael se gorgea de Saïdin. Ce qu'il éprouva ensuite le grisa. Avec ce saint Gréal, il deviendrait un géant à qui plus rien ne résisterait. Renverser des montagnes ou détruire des armées, un jeu d'enfant pour lui. Emmael n'avait plus qu'une envie, tisser ses flux et en finir avec le démon.
« Mais fais attention !»
dit soudain Demandred, sa voix ridiculement faible, comme l'écouinement d'une souris.
« N'essaie pas de canaliser contre moi en utilisant cet artefact. Sa carnène, je l'ai liée à moi. » Si tu tentes de me nuire avec, il t'éjectera de la trame.
Était-ce un mensonge? Pouvait-on vraiment associer un individu et un saint Gréal? Taïm l'ignorait. Pensif, il baissa l'artefact, dépité et amer, même si le pouvoir circulait en lui comme jamais.
Emmael, je ne suis pas un idiot. Ne compte pas sur moi pour te fournir la corde avec laquelle tu me pendras. À présent, file et exécute tes ordres. Dans toute cette affaire, tu es mon serviteur, la main qui tient ma hache afin d'abattre l'arbre que je vise. Pour tuer la chair d'Amirline, recours au torrent de feu. On nous a fait jurer de l'abattre, et pour une fois, nous tiendrons parole. Afin que nous puissions le remodeler selon notre image,
Ce monde doit être détissé. » Emael eut un rictus, mais il ne dit rien. Alors qu'il ouvrait un portail, il se jura de détruire la chair d'Amirlin. Ensuite, il déciderait de ce qu'il convenait de faire de Démembred. Folle de frustration, Elaine regardait ses formations de piquiers reculer régulièrement. À force de palabres, Birgit avait réussi à la convaincre de ne pas rester à proximité des combats. La percée des Trollocs risquait de se produire très brusquement. Mais ça ne lui convenait pas vraiment. S'étant repliée jusqu'aux ruines, la reine ne risquait quasiment rien. Cela dit, un double cercle de gardes, masculin et féminin bien sûr, la protégeait, la plupart occupée à manger et à se reposer entre deux massacres. Elaine n'avait pas fait hisser son étendard, mais elle avait chargé des messagers d'informer ses généraux qu'elle n'avait pas encore quitté ce monde. Même si elle avait tenté de mener le combat contre les Trollocs à la tête de ses hommes, ça n'avait pas suffi, et son armée faiblissait à chaque minute.
« Birgit, nous devons y retourner. Les soldats ont besoin de me voir. Je doute que ta présence change quelque chose, » dit l'archer. « Les piquets ne peuvent pas tenir s'ils sont pris en tenaille entre les Trollocs et les Aïades. Je... Quoi ? Je t'écoute. Je jurerais avoir vécu une situation semblable. »
Elaine serra les dents. Elle compatissait aux pertes de mémoire de sa championne. Mais s'il n'y avait eu que ça comme drame, en ce jour, des milliers d'Andoriens mouraient. Sur le front, les réfugiés de Kemlin sillonnaient toujours le terrain pour trouver des blessés ou des flèches. Plusieurs groupes approchèrent des gardes d'Elaine et leur posèrent des questions sur la tournure des événements. Elaine était pleine d'admiration face à tant de ténacité. Si la capitale était détruite, une autre sortirait bientôt de terre. Véritable cœur battant de Kemlin, ses habitants ne renonceraient pas si aisément. Une autre lance de lumière s'abattit sur le champ de bataille, tuant des hommes et dispersant les piquiers. Sur la partie la plus éloignée du plateau, des sœurs se battaient héroïquement. Elaine voyait les éclairs qui zébraient le ciel nocturne, et ça lui en apprenait autant qu'un long rapport. Devait-elle rejoindre ses sœurs? Ici, elle n'avait pas été un assez bon chef pour sauver les soldats, mais elle avait su les rassurer et ranimer leurs flammes.
« J'ai peur pour notre armée, » dit Birgit. « Je crois que nous avons perdu. »« C'est impossible, parce que dans ce cas, nous aurions tout perdu. » « Je refuse d'accepter la défaite. Allez, on y retourne. Que Démembred tente donc de nous abattre. S'il me voit, les soldats auront peut-être un sursaut d'énergie. »
Non loin de là, un groupe de réfugiés de Kemlin attaqua soudain les gardes de la reine. Elaine lâcha un juron, fit volter ombre de lune et s'unit à la source. Les gens qu'elle avait pris pour des réfugiés portaient une cotte de maille sous leurs vêtements crottés. Contre ces gardes, ils frappaient avec des haches et des épées. Pas des réfugiés, mais des mercenaires.
« Trahison !»
cria Birgit. Levant son arc, elle tira et transperça la gorge d'un des félons.
« Aux armes ! Ce n'est pas une trahison !»
dit Elaine, en foudroyant trois hommes d'un seul coup.
« Ces gens ne sont pas avec nous ! Il faut toujours se méfier des voleurs déguisés en mendiants !»
Un autre groupe de faux réfugiés fondait sur les gardes. Ces tueurs étaient partout à la fois. Alors que tout le monde se concentrait sur la bataille, dans le lointain, ils s'étaient approchés furtivement. Voyant débouler une autre bande de mercenaires, Elaine tissa du Saïdar, pour leur montrer qu'il fallait être fou pour s'en prendre à une Aes Sedai. Pour ça, elle eut recours à un puissant point d'air. Quand il percuta un des hommes qui fondait sur elle, le tissage se désintégra. Mesurant le danger, Elaine voulut faire volter sa monture, mais un des types plongea et enfonça sa lame dans le cou d'ombre de lune. La jument se cabra et hennit de douleur. Alors qu'elle glissait de sa selle, paniquée pour ses bébés, Elaine vit que tous ses gardes ferraillaient contre les agresseurs. Des mains sans douceur la saisirent par les épaules et la plaquèrent au sol. Puis un objet argenté brilla dans la nuit. Une tête de renard. D'autres mains pressèrent ce médaillon sur sa peau, au-dessus de ses seins. Le métal, constata-t-elle, était glacé.
« Bonjour, ma reine, » dit Mellar, en s'agenouillant à côté de sa prisonnière.
L'ancien garde royal, celui que tant de gens prenaient encore pour le père de ses enfants, baissa les yeux sur elle.
« Te retrouver n'a pas été facile. »
Elaine cracha au visage du sale type, mais il fut trop rapide et reçut l'offense sur son bras. Souriant, il se leva, laissant la reine entre les mains de deux mercenaires. Même si quelques-uns résistaient encore, la plupart des protecteurs d'Elaine étaient morts. Mellar tourna la tête vers les deux hommes qui approchaient, tirant Birgit. Pour qu'elle cesse de se débattre, un troisième vint à la rescousse de ses camarades. Mellar dégaina son épée, regarda un moment la lame, comme s'il tentait d'y contempler son reflet,
puis il l'enfonça dans le ventre de l'archère. Avec un gémissement, Birgit tomba à genoux. D'un revers de sa lame, Mellar la décapita net. Tandis que le corps de sa championne basculait en avant, un jet de sang fusant de son cou, Elaine se sentit tétanisée, comme s'il lui était impossible de réagir ou de penser. Le lien disparut, aussitôt remplacé par une incroyable souffrance.
« J'avais envie de faire ça depuis longtemps, » dit Mellar.
« Par le sang et les cendres, qu'est-ce que c'est agréable !»«
Birgit !»
La championne d'Elaine était morte, tuée par un sale type. Ce cœur dur mais généreux, cette loyauté indéfectible, tout ça perdu à jamais. Face à un tel deuil, qui aurait pu avoir les idées claires? Mellar floqua un coup de pied dans le cadavre de l'archère, puis il tourna la tête vers un cavalier qui approchait, une dépouille derrière sa selle. L'homme portait un uniforme andorien, et le corps au visage caché avait les cheveux blonds. Qui que soit cette pauvre femme, elle portait exactement la même robe qu'Elaine.
« Oh non !»«
Allez !»
ordonna Mellar. L'homme s'éloigna, des faux gardes de la reine faisant cercle autour de lui. Celui qui brandissait l'étendard d'Elaine beugla.
« La reine est morte ! Oui, la reine n'est plus !»
Mellar se tourna vers la jeune souveraine.
« Tes soldats se battent encore, mais cette nouvelle leur brisera le moral. Quant à toi, eh bien, on dirait que le grand seigneur s'intéresse à tes rejetons.
En tout cas, on m'a ordonné de les emmener au mont Shayolgul, mais il me vient à l'esprit que tu n'as pas besoin d'être avec eux. »
Mellar regarda un de ses compagnons.
« Tu peux m'arranger ça ?»
Le type s'agenouilla près d'Elaine et lui posa les mains sur le ventre. Ses bébés étant menacés, la jeune femme sortit de sa léthargie et frissonna de terreur.
« Il est encore loin du terme, » dit l'homme. « Si tu les sors de force, je réussirai probablement à garder les mioches en vie. Ce sera difficile, car elles sont à peine arrivées à 6 mois. Mais avec le tissage que m'a montré l'élu, eh bien, je devrais pouvoir les préserver 1 heure. Cela dit, pour les conduire au mont Shayolgul, tu devras les amener à Emael. Là-bas, les portails normaux ne fonctionnent plus. »
Mais là, rengana son épée et tira un coutelas de sa ceinture.
« Ça me va très bien. Les bébés, on les enverra là-bas selon les ordres du grand seigneur. Toi, majesté, tu es à moi. »
Elaine se débattit, mais les hommes qui la tenaient étaient bien trop forts pour elle. Quant au Saïdar, le médaillon avait le même effet que de la fourche racine. Tentant de s'unir au Saïdine, elle n'aurait pas eu moins de chances de réussir.
« Non !»
cria-t-elle, alors que Mellar s'agenouillait près d'elle.
«
Excellent !» fit l'ancien officier. « J'espérais que tu crierais comme ça. »
Rien. Rand voulut pivoter sur lui-même, en vain, car il n'avait ni forme ni substance. Rien. Il voulut parler, mais comment faire quand on n'avait pas de bouche? En pensant les mots, il parvint pourtant à s'exprimer.
« Shaitan, quel est ce monde ?»«
Notre pacte !» Le résultat de notre arrangement, adversaire.
Notre arrangement, c'est le néant absolu?
Oui.
Rand comprit enfin. Le ténébreux lui proposait un marché, et celui-là, il pouvait l'accepter. Le néant, pourquoi pas? Tous deux, ils se battaient avec l'avenir du monde pour enjeu. Rand militait pour la paix, la gloire et l'amour. Le ténébreux recherchait l'exact contraire. La guerre, l'indignité, la haine. Cette solution était en somme un compromis entre les deux aspirations. Le ténébreux acceptant de ne pas refabriquer la roue pour qu'elle serve ses sombres objectifs, l'humanité ne serait pas réduite en esclavage, et aucun monde sans amour ne verrait le jour. Parce qu'il n'y aurait plus de monde du tout.
« C'est ce que tu as promis à Elan ?» dit Rand, la fin de son existence.
« Je t'offre la même chose, adversaire, ainsi qu'à toute l'humanité. Tu veux la paix ?» Je t'en fais cadeau, la paix du vide à laquelle tu aspires si souvent. Je te donne le rien et en même temps le tout. »
Rand ne rejeta pas immédiatement cette offre. Au contraire, il la considéra, la passant en revue dans son esprit. Plus de douleur, plus de souffrance, aucun fardeau à porter. Une fin. N'était-ce pas ce qu'il avait désiré? Un moyen de mettre un terme au cycle du temps?
Non. « Dit-il. La fin de la vie, ce n'est pas la paix.
Ce choix, je l'ai déjà fait avant. Nous allons continuer. »
La pression du ténébreux se fit de nouveau forte, menaçant de le déchiqueter.
Tu n'auras pas de seconde chance.
Avec toi, je n'en attendais pas moins,
dit Rand alors qu'il retrouvait son corps. La dernière virtualité se dissipa. Alors, le vrai calvaire commença. Pendant que les officiers, une lanterne à la main, passaient les rangs en revue pour préparer les hommes, Min attendait avec les forces séanchaniennes. Loin d'être retournée à Eboudar, l'armée de l'Empire avait voyagé jusqu'à une vaste plaine que la compagne de Rand ne connaissait pas. Ici, les arbres arboraient une écorce bizarre et de larges feuilles. D'ailleurs, étaient-ce vraiment des arbres, ou plutôt de très grands arbustes? C'était dur à dire, parce que toute cette végétation semblait fanée, comme si elle n'avait plus vu une goutte d'eau depuis des semaines. Pour passer le temps, Min essaya d'imaginer à quoi ressemblait ce paysage quand il était en bonne santé. L'air charriait des odeurs différentes, de plantes inconnues et d'eau de mer, aurait-on dit. Prêts à se mettre en marche, les Séanchaniens attendaient en formation, un homme sur quatre portant une lanterne. Pour l'instant, une sur dix seulement était allumée. Même avec des portails, déplacer une armée demandait du temps, mais Fortuna disposait de centaines de damanes. La retraite avait été rapidement exécutée, et le retour serait probablement aussi rapide, si Fortuna décidait de retourner au champ de Merilor. À la lumière bleue d'étranges lanternes, l'impératrice trônait sur son palanquin, hissée pour l'occasion sur une colonne. Oui, une colonne d'un blanc immaculé, de quelques 6 pieds de haut, qui se dressait au sommet d'un tertre. Assise sur un siège près de la colonne, Min entendait en direct tous les rapports.
« La bataille ne se déroule pas bien pour le prince des corbeaux, »
dit le général Galgan. En présence de Fortuna, il s'adressait à ses officiers, qui pourraient ainsi lui répondre sans devoir passer par le protocole requis pour parler à l'impératrice.
« Il vient de nous demander d'intervenir, » continua le général. « Pour moi, il a attendu trop longtemps. »
« Je suis sûr qu'il a un plan, » dit Beslan. « Il faut faire confiance à Matt, ce n'est pas une tête brûlée. »
« Il m'a impressionné, je l'avoue, »
fit Galgan.
« Les augures semblaient le favoriser. »«
Il est en train de perdre, général, »
insista Yulan.
« Une véritable déroute. Pour un homme, les augures peuvent changer très vite, exactement comme la bonne fortune pour une nation. »
Min plissa les yeux et les riva sur le petit général de l'air, qui arborait désormais de la laque sur les deux derniers doigts de chaque main. Depuis qu'il avait commandé la magistrale attaque sur Tarvalon, Fortuna le tenait en très haute estime. Des symboles et des augures tournaient autour de sa tête, comme c'était le cas pour Galgan et pour Beslan.
« Lumière !» pensa Min. « Suis-je en train de penser à des augures, à la manière de Fortuna ? Il faut que je parte très loin de ces fous. »«
Pour moi !» reprit Yulan. « Le prince considère cette bataille comme un jeu, et il a tort. Même si ses premiers paris étaient bons, il est allé trop loin. Combien de fois a-t-on vu un joueur de Daktolk passer pour un génie, accumulant les coups gagnés, alors que seule la chance expliquait ses succès ? Au début, le prince triomphait. À présent, nous voyons combien il est dangereux de flamber ainsi. »
Yulan inclina la tête à l'intention de l'impératrice. Celle-ci ne manifestant aucune désapprobation, il se sentait encouragé à continuer.
« J'ai entendu des rumeurs au sujet du prince, »
fit Galgan.
« Matt est un flambeur, c'est vrai, »
intervint Beslan.
« Mais incroyablement doué. Il gagne à tous les coups. « Général, vous devez aller l'aider. »
Yulan secoua vigoureusement la tête.
« L'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, nous a retirés du champ de bataille pour de très bonnes raisons. S'il a été incapable de protéger son poste de commandement, le prince ne contrôlera pas une pareille bataille. »
De plus en plus audacieux. Pensif, Galgan se massa le menton et regarda une femme officier. Sur Tylee, Min ne savait pas grand-chose, car elle ne parlait jamais lors de ses réunions. Les épaules larges, les cheveux grisonnants et la peau noire, cette guerrière donnait une incroyable impression de force. Générale de Bagnères, elle avait mené ses hommes au combat à de nombreuses reprises, comme le prouvaient ses cicatrices.
« Les gens de ce continent se battent mieux que je l'aurais cru, » dit-elle. « J'ai ferraillé aux côtés des soldats de Coton, et ils vous surprendraient, général. Humblement, je propose que nous retournions nous battre. »
« Est-il dans l'intérêt de l'Empire d'agir ainsi ?»
demanda Yulan.
« Ici, la résistance de Coton affaiblira les ténèbres. Ensuite, il y aura la longue marche du champ de Merilor à Eboudar, sans parler des attaques aériennes que nous pourrons lancer en chemin. La victoire finale, voilà notre objectif. En revanche, on pourrait charger les Daman d'aller chercher le prince et de nous l'amener. Il s'est bien battu, mais pour lui, tout est perdu. Hélas, en ce qui concerne ses armées, nous serons impuissants, un massacre. »
Le front plissé, Mine se pencha en avant. Une des images autour de la tête de Yulan lui semblait bizarre. Une chaîne. Pourquoi une chaîne ?
Parce qu'il est prisonnier. Quelqu'un joue de lui comme d'un instrument.
Matt redoutait qu'il y ait un espion dans le cercle du pouvoir. Mine en eut les sangs glacés.
L'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, a pris sa décision,
annonça Galgan.
Nous retournons sur le champ de bataille, sauf si, dans sa grande sagesse, elle a changé d'avis.
Galgan se tourna vers Fortuna et l'interrogea du regard.
« Le véritable espion est capable de canaliser, » comprit soudain Mine. « Yulan est simplement placé sous une coercition. »
Mais qui tirait ces ficelles ? Une sœur de l'âge noir ? Une damane vendue aux ténèbres ? Un seigneur de la terreur ? Quoi qu'il en soit, cet espion devait se déguiser grâce à un tissage. Dans ce cas, comment Mine pouvait-elle le démasquer ? Les images. Les Aes Sedai et les autres adeptes du pouvoir avaient toujours des images liées à eux. Toujours. Mine pourrait-elle y trouver un indice ? D'instinct, elle savait que la chaîne de Yulan le signalait comme une victime. Une marionnette, pas le véritable coupable. Mine passa en revue les généraux et les nobles. Elle trouva beaucoup de symboles autour d'eux, comme c'était souvent le cas avec des gens pareils. Comment repérer une image qui sorte de l'ordinaire ? Sondant l'assistance, Mine eut le souffle coupé. Quand elle remarqua qu'un des Sojin, une jeune femme aux joues constellées de taches de rousseur, avait un grand cercle d'images autour de la tête. Cette femme, Mine ne l'avait jamais vue. Servait-elle auprès de Fortuna depuis toujours ? Si elle l'avait déjà aperçue, Mine aurait sans nul doute remarqué son abondance de symboles. À part les personnes capables de canaliser, les champions et les taverennes, très peu de gens avaient tant de symboles dans leur aura. Cela dit, Mine n'avait jamais particulièrement observé les domestiques. C'était bien pour ça qu'il n'y avait pas de meilleure couverture. Détournant les yeux pour ne pas éveiller l'attention de la femme, Mine réfléchit à ce qu'elle devait faire. Son instinct lui soufflait de sortir un couteau et de le lancer. Si cette Sojin était un seigneur de la terreur ou une rejetée, frapper la première serait peut-être la seule chance de vaincre. Mais il restait une possibilité que la servante soit innocente. Après mûre réflexion, Mine se leva de son siège. Devant cette offense au protocole, plusieurs membres du sang murmurèrent d'indignation, mais elle les ignora superbement. Grimpant sur les accoudoirs, elle se tint en équilibre pour être à la hauteur de Tion. Puis elle se pencha et lui parla à l'oreille.
« Matt demande qu'on le rejoigne. Pendant combien de temps va-t-on discutailler avant de le faire ?»«
Jusqu'à ce que je sois sûr que c'est bon pour mon empire. »«
C'est ton mari !»«
La vie d'un homme n'est rien comparée à celle de milliers d'autres. »
souffla Tion. Mais elle semblait sincèrement troublée.
« Si la bataille est aussi mal engagée que le disent les éclaireurs de Yulan... »«
Tu m'as nommé voix de la vérité !»
rappela Mine.
« Qu'est-ce que ça signifie exactement ?»«
Ton devoir est de me reprendre en public si je me trompe ou fais quelque chose de mal. Mais tu n'as pas beaucoup d'expérience à ce poste. » « Il serait préférable que tu restes prudente jusqu'à ce que je... »
Mine se tourna pour faire face à l'assistance.
« Voix de la vérité de l'impératrice Fortuna, je vais dire,
la vérité. Elle veut abandonner les armées de l'humanité et préserver ses troupes en étant de grands périls. Sa fierté provoquera la fin de toute vie, partout en ce monde.
Les membres du sang en restèrent bouche bée.
« Ce n'est pas si simple, jeune femme, » dit Galgan.
Au regard que lui jetèrent les autres, contredire la voix de la vérité ne devait pas être dans ses attributions. Il continua quand même.
« La situation est compliquée. »«
Je serai plus compréhensive, »
lâcha Mine.
« Si je ne savais pas qu'il y a parmi nous une espionne des ténèbres. »
La Sojin aux taches de rousseur leva vivement les yeux.
« Je te tiens, »
jubila Mine. Puis elle désigna le général Yulan.
« Abaldar, Yulan, je te dénonce. Des augures m'ont montré que tu n'agis pas pour servir les intérêts de l'Empire. »
La véritable espionne se détendit, arrachant l'ombre d'un sourire à Mine. « Très bien, tout ça. » Alors que Yulan s'indignait de ses accusations, Mine tira un couteau de sa manche et le lança sur la traîtresse. L'arme fendit l'air en tournant sur elle-même, mais elle s'immobilisa en plein vol avant de toucher sa cible. Les damanes et les souldames présentes en crièrent de surprise. L'espionne foudroya Mine du regard, puis elle ouvrit un portail et plongea dedans. Des tissages fondirent sur elle, mais elle eut disparu avant que la majorité des gens aient compris ce qui se passait.
« Je suis navré, Yulan, »
dit Mine.
« Mais vous êtes victime d'une coercition. Fortuna, il est clair que les ténèbres font tout pour nous garder éloignés de la bataille. Sachant cela, resteras-tu indécise ?»
Mine sonda le regard de Tuon.
« Tu es très bonne à ces jeux, »
souffla l'impératrice, glaciale.
« Dire que je m'inquiétais pour ta sécurité après t'avoir admise à ma cour, j'aurais plutôt dû m'en faire pour la mienne. »
Tuon eut un discret soupir.
« J'imagine que tu me donnes l'occasion, à moins que tu m'y obliges, de faire ce que me dictait mon cœur, que ce soit sage ou non. »
Elle se leva.
« Général Galgan, donne l'ordre du départ. Nous retournons au champ de Merilor. »